Vous écoutez France Culture.
8 mars 1974, l'inauguration officielle de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Quelques jours plus tard, les tout premiers passagers débarquant de New York sont impressionnés.
On a le sentiment d'arriver à Chicago ou à New York.
Pour l'instant, je n'ai pas une vue complète de l'aéroport, mais j'espère qu'il l'est bien puisque c'est une réalisation française.
Oui, une réalisation française. Embarquement immédiat ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de Pékin, de Rome, d'aérogare, de périphérique, de littérature, de documentaire et peut-être même de Pierre Soulages. Avec Paul Andreu qui publie enfin un roman sur la perte de la mémoire, un sujet qui traverse toute l'œuvre de cet architecte qui a signé le Théâtre National de Pékin et des dizaines d'aérogares. Manu Farine.
Retour donc sur le parcours d'un écrivain bâtisseur pour qui l'architecte comme l'artiste est celui qui complète le monde et le transgresse.
La session sera inédite ce soir avec le trio Wanderer, les invités de Mathieu Conquet. Et puis nous recevrons Gianfranco Rosi qui signe Sacro Gras, un documentaire Lion d'or de la Mostra de Venise, un film sur le périphérique de Rome ou comment trouver un sens, une dramaturgie dans une architecture qui tourne en rond. Lucille Como.
Deux vieilles prostituées dans une camionnette, un pêcheur à l'anguille, un botaniste obsédé par la fornication des insectes, autant de figures aimantées par la force centrifuge du périphérique romain.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture avec Xavier Martinet et bien sûr les brèves de Benoît Lagan. Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
C'est une fréquentation en hausse pour le Salon du Livre qui s'est terminé hier soir à Paris. 198 000 visiteurs. Succès donc pour un salon qui avait deux ouvertures à l'international, l'Argentine et Shanghai. Et puis un salon toujours traversé par les débats dans la chaîne du livre en France.
Oui, et la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un succès qui tranche avec les chiffres, Benoît Lagan l'évoquait hier, en baisse pour la lecture et l'édition en 2013. Alors oui, la programmation internationale a peut-être joué. 40 auteurs argentins, 17 chinois, aussi des mangas pour attirer les jeunes. Ils étaient 35 000 cette année, mais aussi pour répondre à un déclin de la francophonie. C'est ce que m'expliquait tout à l'heure le président du syndicat national de l'édition, co-organisateur du salon, Vincent Montagne.
Vous savez qu'il y a des centaines de jeunes français qui partent à Shanghai chaque mois et que, par exemple, la première langue traduite du français vers l'étranger, et je parle des livres, c'est le chinois. C'est vraiment une stratégie du Salon du Livre depuis plusieurs années. D'abord, la ville de Buenos Aires était invitée en 2011, donc l'Argentine aujourd'hui a fait se renforcer le lien entre les deux pays. Et on a doublé le nombre de pays invités en 5 ans. Donc on est à plus de 50 pays, ce qui est quand même très impressionnant. Et également, arrivent maintenant les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Ça, c'est aussi nouveau. Je pense qu'on va en parler sûrement dans les années à venir.
Une exposition internationale qui paye donc. Ce dont on parle moins, ce sont les divisions cette année à l'intérieur du salon entre les éditeurs.
Oui, avec là cette tribune du PDG de Hachette, Arnaud Nourry, le jour même du Salon du Livre, où il était apparemment déçu de ne pas trouver un salon de l'ampleur de Francfort, par exemple, et où il parle du Salon de Paris comme d'une chasse à l'autographe. Alors Arnaud Nourry s'était déjà retiré du salon en 2010, il y était cette année. Or, pour l'année prochaine, ce sont les éditeurs indépendants de l'association L'Autre Livre qui menacent de ne pas y participer. Et cette année, c'est Electre, la maison d'édition de Livre Hebdo, qui s'est refusée à venir. Alors, elle ne s'en explique pas beaucoup, mais peut-être ne faut-il pas chercher bien loin la cause. C'est le retour peu remarqué, finalement, de l'éditeur numérique Amazon cette année, et Vincent Montagne assume.
Moi, j'ai personnellement souhaité que Amazon soit là. Et Amazon est un acteur de la profession, comme d'autres en son temps, si vous vous rappelez. La FNAC aussi était un peu décriée par certains libraires. Nous sommes pour des systèmes ouverts, mais régulièrement, vous savez, un salon, c'est un investissement pour ceux qui viennent. On n'en a pas le retour économique immédiat. Les éditeurs, qu'ils soient gros ou petits, se posent la question suivante. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Et finalement, ils reviennent tous. On est plutôt dans une dynamique de croissance parce que le public est là.
Le public est là et puis les emplacements ne sont pas encore trop chers puisque Vincent Montagne expliquait qu'un forfait à 600 euros a été mis en place pour les petits éditeurs. C'est 1000 fois moins que pour Hachette.
Merci Xavier Martinet, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture. Tout de suite les brèves avec vous Benoît Lagan.
Et pour ouvrir ces brèves, direction Los Angeles où l'on a appris hier le rachat des studios Maker, principal fournisseur de vidéos pour la plateforme internet YouTube. Un rachat par la vieille compagnie Walt Disney qui a annoncé donc cet achat pour 500 millions de dollars. Le montant de cette transaction pourrait même atteindre, dit-on, les 950 millions de dollars en fonction des performances de ce studio spécialiste des formats courts.
Netflix est bienvenue à
conditions.
Oui, dans un communiqué paru aujourd'hui, les cinéastes de l'ARP, la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs, souhaitent la bienvenue en France aux géants américains de vidéos en ligne Netflix, mais, écrivent-ils, à condition qu'ils ne bradent ni nos œuvres ni nos règles collectives. Le conseil d'administration de l'ARP, qui comprend entre autres les réalisateurs Michel Hazanavicius, Claude Lelouch ou encore Costa Gavras, considère que cette arrivée en France doit se faire, je les cite, dans le respect d'un équilibre bénéfique à la pérennité de la création. Xavier Martinet reviendra demain en détail sur cette prise de position.
Et pendant ce temps-là, dans la Manche.
À quelques mois des commémorations du 70e anniversaire du débarquement, on a appris par l'AFP que l'ancien directeur du musée des parachutistes américains de Sainte-Mère-Église, dans la Manche, venait d'être condamné en correctionnel à 4000 euros d'amende pour de fausses factures au nom du musée. Patrick Bunel, ex-proche de Bruno Maigret, ancien membre des services d'ordre du Front National dans le Calvados, a été condamné pour faux, usage de faux et abus de confiance, mais relaxé des faits d'escroquerie. Interrogé par l'AFP aujourd'hui, il a indiqué qu'il ferait appel de cette décision et a tenu à préciser qu'il n'était plus membre du Front National et qu'il avait soutenu Nicolas Sarkozy à la présidentielle.
Et pour terminer, la petite histoire du soir.
Eh bien ce soir, une histoire qui fait froid dans le dos, relayée par un agencier de Reuters basé à Dubaï et qui a lui-même lu plusieurs journaux iraniens à la suite d'une information des renseignements américains relayés dans la presse américaine il y a quelques jours.
Je vous raconte.
Alors tout commence en effet il y a quelques jours dans le New York Times. Le New York Times cite les services de renseignement américains qui rapportaient que les Iraniens auraient construit une réplique de porte-avions américain à propulsion nucléaire. Images satellites à l'appui, les agents du renseignement ont en effet noté qu'une réplique d'un porte-avions américain de classe Nimitz était en construction dans un chantier naval iranien de Kachin, près de la ville portuaire de Bandar Abbas. Afin de rassurer les Occidentaux, selon plusieurs journaux iraniens, le porte-avions repéré par satellite serait en fait une réplique, mais une réplique factice. En effet, cette copie est une partie d'un décor de film que tourne actuellement le réalisateur iranien Nader Talebzadeh, un film centré sur l'affaire de l'US Vincennes, ce porte-avions américain qui avait abattu en 1988 un avion de ligne iranien, affirmant à l'époque qu'il s'agissait d'un accident. Archives.
290 Iranian civilians were killed by an American Navy ship. An incident the US has refused to apologize for.
Eh bien, merci Benoît Lagan.
Avec plaisir, à demain.
À demain, on se retrouve pour la suite de ce journal de la culture. On commence tout de suite.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Plume et Équerre avec vous, Paul Andreu, architecte, écrivain, membre de l'Institut, Grand Prix du Globe de Cristal pour l'ensemble de votre œuvre à la suite d'Oscar Niemeyer. On vous doit une centaine de bâtiments, de projets, avec au centre de votre œuvre vraiment une cinquantaine d'aérogares, Roissy 1 en 74, puis Roissy 2, ceux d'Abu Dhabi, de Dubaï, achevés en 2005. S'ajoute à cela la co-signature de la Grande Arche de la Défense à Paris et surtout le Théâtre National de Pékin, la gigantesque sphère ovale en titane, l'œuf comme on l'appelle là-bas, en plein centre du vieux Pékin. De ce théâtre, qui a connu une construction, on s'en souvient, un peu agitée, vous dites qu'il est plus important qu'aucun autre de vos ouvrages. En quoi ?
D'abord, c'est un des plus récents. Vous savez, on a toujours l'œil rivé sur le dernier, quoi. C'est comme pour les enfants. Et puis, quand même, c'est en ville, c'est dans une capitale, c'est au centre de cette capitale, c'est dans un endroit où Pékin rassemble l'histoire, la cité interdite, le pouvoir, l'assemblée du peuple, la place Tiananmen, enfin une foule de choses qui se rassemblent à cet endroit-là et la culture s'introduit. Enfin, la culture était partout, bien sûr, avant, mais s'introduit activement là, grâce au théâtre. Et plus tard, ils l'ont complété par un musée revu et corrigé.
Ça voudrait dire qu'il y a une sorte de dédain de la profession à l'égard des bâtiments aéroportuaires ? Pour que l'on considère que quand c'est un théâtre, c'est vraiment...
Non, moi, j'ai eu aucun dédain vis-à-vis des aéroports. Au contraire, c'est des projets absolument neufs, sans référence. Et c'est très rare d'avoir des projets sans référence. Maintenant, c'est comme ces choses très populaires et utilisées de manière très populaire. Les gens pensent qu'on peut... Ça existe aussi en littérature, qu'on peut leur faire souffrir un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut modifier, changer, bouger des choses, que ça n'a pas trop d'importance. Moi, au moins, j'en souffre.
Manu Farine.
Vous signez aujourd'hui, Paul Andreu, chez Gallimard, le roman Enfin, qui est l'histoire d'une rencontre assez improbable entre deux personnages, un homme et une femme. Une femme qui perd progressivement la mémoire et un homme qui, lui, ne cesse au fond de la remplir par une seule activité, la lecture. Or, cette question de la mémoire, elle était déjà à l'œuvre dans un récit précédent, je crois même dans le premier récit, qui était L'archipel de la mémoire, en 2004, avec l'histoire d'un homme à la mémoire pour le moins disloqué. Et même dans La Maison, qui était un autre roman en 2009, qui faisait d'un bâtiment le lieu de la mémoire de l'enfance, il en était encore question. Est-ce que ce serait ça la question commune à l'écriture et à l'architecture, Paul Andreu ?
Oui, beaucoup. Enfin, la mémoire m'intéresse beaucoup en tant que phénomène. Je dirais, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages scientifiques sur ce qui se passe dans le cerveau. Je ne dis pas que je les ai compris, mais je les ai lus. Je trouve que c'est intéressant la manière dont les choses viennent. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en particulier cette reconstruction permanente de la mémoire. Que contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on dit jusqu'ici, la mémoire n'est pas quelque chose de figé, qu'on a engrangé quelque part, comme on met, comment dirais-je, des choses en réserve. Mais elle est constamment revisitée, réécrite, reprise et réactualisée. Et ça, c'est... Oui, ça a quelque chose de commun avec l'architecture. L'architecture prend la mémoire du temps. Elle prend le moment de sa construction. Et en même temps, un monument, un bâtiment n'est jamais fini. Il est toujours vivant. Même à l'état de ruine, il est vivant. Il a toujours une nouvelle identité qui en appelle à sa mémoire, mais qui la transforme.
À quel moment de votre parcours d'architecte et même d'homme de lettres, vous avez eu besoin d'avoir recours à la fiction, Paul Andreu ? Pour quelle raison ?
Je veux dire, je me suis mis à écrire tard. J'ai eu beaucoup envie d'écrire dans ma vie et puis je ne m'autorisais pas à le faire parce que je pensais que j'avais plus urgent ou que que c'était pas quelque chose pour moi. Et j'ai commencé, je ne sais plus bien, vers 60 ans, quelque chose comme ça. Et... Pour moi, c'est une autre activité. Je pourrais dire qu'elle est complémentaire. Certainement, je me venge de l'architecture. Parce que l'architecture m'oblige à faire des plans, à tout prévoir, à dire ce que je vais faire, jusque dans le détail, longtemps à l'avance. Et je n'en peux plus, je suis excédé de travailler avec des grandes... Comme on fait le cinéma, d'ailleurs, avec beaucoup de collaborateurs, beaucoup de... Et quand j'écris à l'avancement sans savoir où je vais, en essayant d'être mon premier lecteur et de m'étonner moi-même. Et donc, de ce point de vue-là, ça me... Et tout seul, bien sûr, au milieu de la nuit, ça me rafraîchit beaucoup.
Manu Farine.
Alors, enfin, justement, le personnage féminin qui est atteint de troubles de la mémoire a mis en place une sorte de subterfuge, à savoir disséminer ses souvenirs, dans la rue qu'elle emprunte quotidiennement. Par exemple, le souvenir de ses maris, de ses compagnons, qui vont être groupés dans un seul immeuble, en l'occurrence une banque, à chacun son étage. Qu'est-ce que ça pourrait dire, finalement, de l'architecture, de ce qu'elle peut porter ?
Ah, oh, ça, c'est... Ça, c'est un espèce de, jeu. Je ne pense pas que ça dise quelque chose de l'architecture, sauf que l'architecture est un cadre dans lequel on évolue, qui est relativement stable, je dis bien relativement, il bouge aussi. Mais... Et après, c'est l'allusion au procédé des hypermnésiques qui effectivement place les choses dont ils veulent se souvenir dans un cadre qu'ils visualisent. C'est un rapport de la visualisation et de ce que la mémoire contient. Hein. Et c'est sûr que les bâtiments, les rues autour de nous, les bâtiments, nous ne les détaillons pas, Dieu soit loué, mais nous en avons une image très, très globale qui nous accompagne et qu'on peut... dans laquelle alors on peut adresser des choses dont on veut se souvenir. Mais ce n'est pas une loi ou une règle, c'est simplement cette dame.
Paul Andreu, parcours atypique pour vous. Vous commencez par préférer Polytechnique à Normale Sup où vous êtes reçu, puis formation d'ingénieur au Pont et Chaussée, puis architecture aux Beaux-Arts. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher du côté de l'architecture ?
La création artistique qui me tentait parce que j'avais... connu des peintres et vu la peinture et que je n'imaginais pas qu'après mes études scientifiques je puisse faire de la peinture. Je ne m'en croyais pas capable et j'ai décidé que l'architecture était entre les deux, ce qui est une décision en soi stupide, mais c'est la faute heureuse comme on dit dans les écritures. Parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'allait bien. Voilà, c'est l'absence totale de plan de carrière.
Manu Farine, à propos de peinture, justement.
À propos de peinture, oui, on sait que vous êtes proche de Pierre Soulages, dont vous possédez par ailleurs des toiles, parmi de nombreuses autres.
Parmi d'autres, oui.
Et vous aviez même concouru pour son musée, à Rodez. Qu'est-ce que le projet que vous aviez envisagé disait de votre lecture de l'œuvre de Soulages ?
Oh, Elle disait que j'essayais d'en comprendre la continuité et en même temps les épisodes, bien que ce soit un musée qui ne montrait pas toute l'œuvre de Soulages, elle montrait toute l'œuvre gravée, plus un certain nombre de choses de toutes les époques, mais essentiellement toute l'œuvre gravée. Et bon, est-ce que j'étais le mieux placé pour décrire ça? J'en sais rien. En tout cas, j'étais un de ceux qui l'aimait beaucoup. Mais les auteurs ont fait un très bon projet. Hein. Je ne voudrais pas du tout qu'on en conclue que j'ai des regrets vis-à-vis de moi et des regrets vis-à-vis de l'œuvre de mes confrères.
Il y a un mot qui revient dans les entretiens qu'on a pu lire pour préparer l'émission, c'est celui de transgression chez vous. La création, vous dites, c'est la transgression et vous parlez aussi de désobéissance. À Pékin, par exemple, pour le Théâtre National, où il fallait tenir compte du voisinage de la Maison du Peuple, de la tradition chinoise, qu'est-ce que vous avez transgressé, Paul Andreux ?
Mais j'ai transgressé les règles à un moment. C'est-à-dire que le concours a duré plus longtemps que prévu, il y a eu davantage de phases. Et il y a eu un moment où on a reçu une instruction de changer la position du bâtiment à laquelle je me suis opposé. Et puis quand j'ai accepté quand même de continuer le projet, j'ai décidé que je n'en ferais plus qu'à ma tête. Donc j'ai transgressé, on me disait faites de l'eau ici, je l'ai mise là, faites de ci. J'ai transgressé les règles, pas le programme lui-même. Et il se trouve que mes interlocuteurs ont accepté cette transgression et de leur côté ont transgressé aussi les règles qu'ils avaient fixées. Et de cette double transgression naît, je pense, la création. Je ne sais pas ce qu'en pensera l'homme des documentaires et du cinéma à côté de moi. Je pense qu'il vous dira la même chose. Rome naît comme ça. Il y a Romulus fait un sillon et Rémus saute des deux côtés du sillon. Et Romulus est du côté de l'art.
Sur cette idée de transgression, Gianfranco Rosi.
L'idée de transgression est...
L'idée de transgression dans mon travail
est
dans l'idée de conserver la réalité
et
de trouver une dramaturgie à travers l'observation du réel avec une transformation des choses. Donc la réalité vit d'une certaine manière, d'une certaine lumière, dans un certain moment, dans un moment de synthèse, qui renferme tant de moments qui se sont passés avec les différents personnages, devient l'essence, la vérité, mais quelque chose d'autre, une suspension, une transformation, à travers la soustraction d'informations.
Manu Farine.
Est-ce qu'il y avait déjà une forme de transgression, Paul Andreux, dans votre tout premier bâtiment, à savoir le fameux Terminal 1 de Roissy ?
Oui, d'une certaine manière, oui. Vous savez, on avait l'habitude d'empiler les étages dans l'ordre du départ au-dessus de l'arrivée. Moi, j'ai fait le contraire parce que ça arrangeait mon projet.
Pour quelle raison vous avez fait le contraire ?
Hein ?
Pourquoi faire le contraire ?
Parce que c'était mieux pour les routes, parce que ça arrangeait le réseau routier, que c'était plus facile de faire monter les bagages que de les faire descendre avec des... etc., etc. Il y avait un certain nombre de raisons très, très objectives. C'était pas... Moi, je ne suis pas pour la transgression gratuite qui consiste à faire juste le contraire de ce qu'ont fait les autres. Ça ne m'intéresse pas du tout de faire le contraire. Mais j'ai très envie de faire ce que je pense après avoir bien réfléchi.
L'aéroport, bien sûr, c'est un lieu de voyage, un lieu de séparation. Et c'est aussi, dites-vous, un lieu qui brave un interdit humain. C'est celui de l'envol, quelque chose qui aurait à voir avec le mythe d'Icare. Comment Roissy 1 prenait-il en charge cette dimension-là, Paul Andreux ?
Il le prenait en charge, alors je dirais, factuellement, en étant une espèce d'image du mythe d'Icare. Dans le trou central où passent les tapis roulants, il y avait une fontaine que malheureusement on a enlevée. Hein. Et donc c'était le vol en effigie avant de le faire lui-même. Hein. Mais plus profondément, ce que raconte le mythe, c'est qu'on peut transgresser une règle, mais que si on est pris par l'hubris, on va être puni. Hein. Et donc c'est cette double dilatation de l'ego par le fait de la transgression et cette peur, cette frayeur qui naît du fait que de la peur d'être puni. Quoi. Donc moi j'ai essayé de lutter contre ça, à la fois par les matériaux. Je voulais toujours que les matériaux soient vrais, soient simples, qu'on puisse se raccrocher aux choses, que, qu'il n'y ait pas de... J'ai chassé tout ce qu'on appelle faux, les faux planchers, les faux plafonds, les faux... les gaines sont des vraies gaines, le mur est un vrai mur, le béton est du béton. Bon, et en même temps, j'étais un peu théoricien, il faut reconnaître, mais...
Mais c'est bien d'être théoricien.
Oui. Mais bon, enfin, après vous l'êtes des fois peut-être un peu trop. Mais c'est la force de la jeunesse,
ça. Manu ?
Voici ces deux terminaux. Donc l'un conçu un peu comme un nœud, en tout cas selon l'expression de Virilio, l'autre comme un assemblage d'anneaux. Et ils ont été réalisés à des décennies d'intervalle. Et vous dites qu'ils plaisent à des types très différents de personnes. Comment est-ce que vous décririez ces deux usagers, Paul Andreu ?
Ça, c'est assez facile. Il y a ceux... Et c'est souvent les voyageurs peu fréquents qui sont justement dans la transgression. Ils aiment voler, ils vont aller voler. Et donc, ils se laissent conduire gentiment. Hein. Ils vont suivre la signalisation. Ils ne cherchent pas tellement à savoir où ils sont. Les autres, qui sont plus inquiets, plus hommes d'affaires, ils veulent absolument savoir où ils sont. Et dans Roissy 1, ils n'y arrivent pas. Et dans Roissy 2, ils y arrivent. Donc, ils préfèrent Roissy 2.
Votre premier livre, c'est « J'ai fait beaucoup d'aérogares ». C'était en 98, vraiment un très beau titre. Qu'est-ce que vous mettez dans ce « beaucoup » ? C'était un regret ? C'était quoi, Paul Andreu ?
Non, c'était je ne sais pas pourquoi je me suis inventé ce titre. Je crois que c'est pour le rythme que ça avait, du genre « longtemps, je me suis couché de bonne heure hein ». Vous voyez, ou des trucs comme ça. J'ai fait beaucoup d'aérogares. Ça mettait comme ça une phrase un peu en suspens. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de gens qui ont écrit trop entre les autres mots. Bon, c'était comme ça. C'était un jeu, une espèce de jeu, quoi, ce titre. Et après, c'était une série de réflexions sur le fait de construire et ce que ça veut dire qu'effectivement traverser une aérogare, voler, ce que c'est qu'être sous les palmes et quand le vent bouge, ce que c'est que la foule, ce que c'est que la concomitance dans une foule. Pourquoi la foule d'une aérogare est complètement différente de la foule d'un stade, parce qu'elle n'est pas coordonnée, alors que la foule d'un stade est coordonnée par le ballon. La foule d'une aérogare est une espèce de foule qui se diffuse.
Manu ?
Que l'architecte Jean-Marie Dutilleul, par exemple, qui a occupé un poste finalement sensiblement semblable au vôtre, mais alors lui, côté gare, que lui fasse de la gare quelque chose qu'on pourrait rapprocher d'une église, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, vous qui avez par ailleurs, je crois, signé l'aménagement urbain du quartier de la gare du Midi à Bruxelles ?
Semblable à une église... Je ne sais pas, une église désaffectée peut-être. Mais si vous voulez, si on pense que l'architecture, ce que je pense, fait des bâtiments pour que les gens grandissent, pour qu'ils vivent, pour qu'ils s'installent et qu'ils grandissent, et que ces lieux de transfert ne doivent pas s'imposer aux gens. Et sûrement, alors, mon ami italien va avoir des tas de choses à dire là-dessus. Hein. Si effectivement ce sont des lieux... pour grandir, pour se développer, alors oui, ils peuvent avoir une parenté avec des églises ou des lieux, de grands lieux publics qui ont une fonction spirituelle.
Vous dites que vous avez changé d'avis, en tout cas pour ce qui concerne les aéroports. Vous n'êtes plus très sûr qu'il soit essentiel que le français moyen aille tous les ans en Thaïlande ou en Afrique du Sud, hein, ça c'est vous qui le dites. Oui. Dubaï et Abu Dhabi ont été terminés à peu de choses près en 2005, puis plus rien. Est-ce que vous n'auriez plus l'envie d'en construire ?
Non, j'ai pas. Oui, j'ai pas envie de construire davantage d'aéroports. Ça va, j'en ai fait beaucoup. C'était très bien, j'ai adoré ça. Et en même temps, je veux pas travailler pour le Guinness Book. À partir du moment où je me vante de n'avoir jamais pratiquement répété la même chose, sauf une petite fois et encore. Je déteste me répéter. Je trouve que quand on se met à produire, eh bien, on ne crée plus.
Quelle est la chose que vous avez répétée, Paul Andreu ?
Eh bien, je vais vous le dire, j'ai répété la structure de la gare numéro 2 de Nice dans l'île de Hainan.
Ça consistait en quoi ?
Elle a la même forme du toit, parce que les Chinois me l'ont demandé et j'ai cédé. De guerre lasse, j'ai fini par dire « bon, ça va, ça suffit, je fais la même ». Et il se trouve que je ne l'avais pas dit aux gens de Nice et qu'ils ont débarqué là-bas un matin et qu'ils ont été assez étonnés.
Le rendez-vous, 10h, la session.
Session inédite ce soir, Mathieu Conquet.
Avec le trio, Vanderer y fêtait leurs 25 ans d'existence en 2012, formé au Conservatoire à Paris, sous le signe du voyage et de Schubert, hein, d'où le nom Vanderer. Mais leur répertoire y dépasse régulièrement le romantisme allemand, ça va de Haydn au contemporain, à Thierry Esquèche, ou même aux Américains, hein, comme on a pu le voir pour la folle journée de Nantes cette année, avec du Bernstein, Barber, Copland. Ils ne sont pas restés dans ce seul répertoire à trois, il y a aussi eu des triples et doubles concertos avec orchestre, ils ont joué avec Yehudi Menuhin, James Conlon, François-Xavier Roth, tous les grands orchestres européens et même des chanteurs. Ils étaient nos invités le lundi 17 février dernier. Ils ont gravé pendant les balances cette partie du trio pour piano en la mineur de Tchaïkovski, c'est l'opus 50, une pièce de 1882. On écoute le deuxième mouvement, variation numéro 6, Tempo di Vals. Vincent Coq est au piano, Jean-Marc Philippe Variabédian au violon, Raphaël Pidou au violoncelle. Le trio Vanderer dans nos studios de France Culture pour un extrait du trio de Tchaïkovski. Ils seront demain en concert jusqu'à samedi à Pau, le 3 avril au Théâtre de l'Éclat à Pont-Audemer, le 11 avril à Villefranche-sur-Saône et le 12 avril au Théâtre d'Avignon. Le disque Tchaïkovski et Arensky est disponible sous le label Harmonia Mundi.
Le rendez-vous.
Plateau excentrique avec vous, John Franco Rosi, réalisateur de documentaires depuis 1993, avec un film tourné en Inde dans la ville sacrée de Bénarès. Demain sort en salle votre quatrième film, Sacro Gras, Lion d'or à la dernière Mostra de Venise, et présenté en ouverture du festival Cinéma du Réel à Paris. Sacro Gras, c'est le nom du périphérique qui ceinture Rome. Vous avez filmé la vie étrange qui s'organise autour de cet anneau, guidée par un urbaniste passionné. On y trouve de vieilles prostituées, un botaniste fou, un vieux pêcheur, un ambulancier de nuit. Extrait de la bande-annonce.
Posso lavorare domani, sì.
Domani penso, no, magari un po' di riposo, mica ti fa male.
Un po' di riposo? Che cazzo mi dai i soldi?
Vieni da me. I regali, i soldi.
Presenza di rumori. Squittii di larve e rumori di adulti. Intervenire immediatamente.
Dirò che l'ho annusata talmente tanto che probabilmente qualcosa ha perso, sì.
Gianfranco Gorosi, lors de la réception du prix à Venise, vous avez dit que vous aviez commencé à aimer Rome à travers son périphérique.
Je vais faire une battute. Io amo molto la radio e dico sempre che la radio si guarda.
J'aime beaucoup la radio et je dis toujours que la radio se regarde. Je voudrais commencer par dire ça. Ça, c'est la démonstration, parce que faire voir un fragment comme ça de cinéma à travers la radio, c'est une manière de regarder. Je ne suis pas romain. C'est un lieu qui n'appartient pas à mon vécu, à ma mémoire. Donc, les années passant, où j'ai fréquenté une autre Rome, parce que Rome est divisée. Il y a deux villes. Il y a la ville qui est à l'intérieur des vieux murs auréliens, où vivent à peu près 250
000
personnes, où il y a eu le film Sorrentino, La Grande Bellezza. Puis il y a une Rome usée, qui tournait vers le passé, qui a un vrai problème économique, social, culturel, qui n'est pas aussi belle que nous la voyons dans le film de Sorrentino, où la photographie fait sembler merveilleuse cette ville. Il faut aller au-delà de la beauté, et on trouve effectivement une ville qui est en train de se désintégrer, qui n'est absolument pas contemporaine du futur, mais qui est contemporaine du passé. Et il y a une Rome qui est contemporaine du présent, qui sera la Rome possible du futur, où vivent 3 millions de personnes. Une Rome qui est née dans l'anarchie totale, dans les choses abusives,
assolutamente priva di un piano,
privée de plans d'urbanisme, de structure, de socialité, de vision politique. Une Rome abandonnée à elle-même et qui est contrainte, qui doit se regarder sans aucun contact avec l'autre Rome, celle du centre. Ce sont deux séparations avec une même force. C'est une Rome qui s'entoure autour d'une muraille, autour d'un mur d'asphalte. Et les murs ne fonctionnaient pas à l'époque du Moyen-Âge. Et encore moins durant les temps modernes.
Quindi questo raccordo anulare è come una separazione all'interno di una separazione.
Ce raccordo anulare è una sorta di separazione all'interno della separazione, a 1,5 milioni d'un côté, 1,5 milioni dell'altro côté. E questa separazione è il nuovo centro di Roma.
Qualcuno ha detto che
questa
striscia d'asfalto è la nuova via Veneto.
Che questa banda d'asfalto è la nuova via Veneto.
Citando la Roma di Fellini.
En citant évidemment la rue célèbre des films de Fellini.
Però poi nel mio film.
Dans mon film, j'ai voulu dépasser tout ça. Je voulais faire une transgression, comme on disait tout à l'heure, voir la transformation de ce lieu en quelque chose d'autre. J'ai réussi à le faire en restant presque plus d'une année sans même avoir tourné un seul film, accompagné d'un architecte urbaniste, Niccolò Bassetti. Qui m'a plongé dans cette réalité de quartier, de histoire, de situation. Et puis à un moment donné, j'ai dû me détacher de cette immersion et trouver quelques éléments, vider tout ça et faire que ça devienne, à travers la mémoire de quelques éléments, de quelques fragments, une autre histoire. Et donc, dans ce cercle, il s'ouvre
et devient une ligne.
Et devient, enfin, ce cercle s'ouvre et devient une ligne. Une ligne infinie, sans début, sans fin. Où il y a un pont, où il y a une église, où il y a un hôpital, où il y a un château, où il y a une prostituée, où il y a un bar, où il y a la neige, le cimetière, comme une sorte de lieu de l'esprit. Faire une sorte que Rome devienne invisible, une stratification, une abstraction
non, la stratificazione di astrazioni.
Une stratification d'abstraction.
Dove non c'è più la sindrome di Stendhal, ma la sindrome di Freud.
Non, il n'y a plus le syndrome de Stendhal, mais le syndrome de Freud.
La sindrome di Freud, che è la sindrome del passato ramificato. Syndrome
de Freud du passé ramifié qu'on ne peut pas voir.
Vous comprenez cette analyse, Paul Andreu, de Rome?
Oui, oui, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément comme analyse. Hein, et je crois beaucoup en plus dans ces marges, dans ces limites circulaires où tout se rassemble et s'explique. C'est en même temps très, très sensible, très mathématique, très, très, très urbanistique. Non, c'est merveilleux.
Monsieur Comeau.
J'ai lu que pendant les repérages, vous aviez emporté avec vous Les villes invisibles d'Italo Calvino. Vous dites que c'est un livre sur le voyage et c'est intéressant parce que votre film, finalement, il ne voyage pas. Le périphérique tourne en rond par définition. Et surtout, vous ne filmez pas le mouvement, vous filmez surtout des gens qui sont paradoxalement ancrés dans cet espace de transition. Comment a pu fonctionner cette référence à Calvino ?
Calvino. È un attore che io porto con me, un libro.
Calvino, c'est un acteur que je porte avec moi, un livre
consumato nel viaggio,
que j'ai usé dans mes voyages.
E lo scoprì nel mio primissimo lungo viaggio.
Mon premier long voyage quand j'ai fait Botman.
Di andata e ritorno.
Le voyage. D'un côté, je vivais aux États-Unis et je venais de sortir de l'école de cinéma. Et j'ai cherché une manière de raconter.
Ricordo che scelsi il documentario perché
j'ai choisi le documentaire parce que ça me permettait de ne pas raconter l'histoire de quelqu'un avant de véritablement de monter. C'était une liberté énorme, partir avec une caméra et à travers le voyage, on pouvait commencer à structurer, donner une forme à ce voyage, à travers le montage, ensuite à travers les récits. Et donc, j'ai découvert à ce moment-là véritablement le livre de Calvino. Il y a un très très beau chapitre qui s'appelle la Cité des Morts. C'était la ville où les morts et les vivants se mêlent.
Però Benares è stato uno dei luoghi più filmati al mondo.
Mais Benares a été une des villes les plus filmées du monde.
Tant'è vero che non sono mai riuscito a trovare.
Donc je ne suis jamais arrivé à trouver un support de production pendant 4 ou 5 ans.
Ça c'était pour votre premier film en 93.
J'ai cherché longtemps des financements. Non, mais non, ça ne nous intéresse pas un film sur Benares. J'ai dû trouver une nouvelle manière de raconter.
Et Calvino m'aidait
dans l'abstraction qui faisait en sorte que ce que je voyais, je partais de la réalité, mais je devais aller ailleurs. Cette ville des morts, cette ville hypothétique de tous les morts et de toutes les villes.
Et così lo stesso metodo usato probabilmente quando
feci avec même méthode que j'ai dû utiliser dans le Bello Stile, que c'est pas un livre que je lis, je le feuillette de temps en temps, je prends un mot, une grande liberté d'interprétation. Chaque fois que je lis d'autres choses à chaque fois, mais les pages sont tellement soulignées avec des notes que au bout d'un moment ça n'a plus de sens. Il y a donc d'autres associations à ce moment-là que je fais. C'est un livre qui me donne une énorme latitude d'interprétation, des nuances immenses.
Et quindi mi aiuta nella
Il m'aide dans l'abstraction, dans la stratification de la réalité.
Lucille.
Alors, vous avez commencé donc en 93. À ce moment-là, on vous dit représentant du cinéma direct en Italie, un courant du documentaire qui est né aux États-Unis où vous avez étudié à la fin des années 50, qui capte le réel dans son objectivité avec les moyens techniques les plus légers possibles. Vous mettez en place des vrais dispositifs techniques qui ne sont pas forcément légers. Je pense à ces grues que vous utilisez pour filmer des appartements en plongée de l'extérieur. Qu'est-ce qui rendait nécessaire, par exemple, le fait de conserver le cadre de la fenêtre ? À l'image.
C'est une question qui m'amuse beaucoup. Parce que quand, après Venise, il y a une critique très très positive du très beau, très belle. Elle disait cette critique, c'était un film avec un gros budget. Parce que c'était clair que ces fenêtres avaient été filmées avec une grue. Et en fait, c'est pas comme ça.
Ah bon ?
Non. Perché non. Questo palazzo è un palazzo mystérieux.
C'est un bâtiment mystérieux.
Questo palazzo per bâtiment. Me era come una...
Ce bâtiment pour moi c'était
comme navicella degli alieni che atterrava.
Comme une soucoupe volante d'extraterrestres qui était débarqué, qui avait débarqué comme ça dans cet endroit.
E quindi si parle ancora della trasformazione in qualcosa.
Si parle, là on parle de transformation en quelque chose d'autre. Je ne savais pas comment filmer cet endroit, comment l'aborder. Et un jour en montant sur la terrasse où l'on voit justement le raccordo anulare, à travers un escalier de service latéral dans un angle de l'immeuble, je trouve cinq fenêtres qui donnent sur cette cet escalier. C'était cinq fenêtres ouvertes parce que c'était l'été. Alors j'ai passé pendant plus d'une heure à regarder à travers cet espace. Et je me demandais, mais qui habite ici, dans un espace aussi petit ? Cinq fenêtres, l'une par-dessus l'autre. Et le soir, je suis allé frapper. Et le premier qui m'a ouvert la porte, et ça a été le noble de Turin, celui avec la barbe. Et je l'ai regardé et je suis tombé amoureux de lui tout de suite. Il m'a fait entrer, on passait 3 à 4 heures avec lui à parler. Je lui ai expliqué mon projet. Et puis je suis allé le rencontrer de temps en temps. Et c'est ainsi qu'est née notre amitié très forte. Et puis j'ai compris ce que je veux raconter de lui. À l'intérieur de l'appartement, ce n'était pas possible de le filmer parce que c'était trop petit. Chaque recoin cachait le reste du cadrage et donc enlevait la relation du personnage à l'espace. Alors je me suis souvenu de ma première émotion quand j'ai vu les fenêtres. Alors je suis retourné sur cet escalier de service et j'ai décidé de tourner de l'extérieur toute la scène. Mais vraiment, je disais, c'est un angle de pur voyeurisme. Mais j'ai mis les sons, les microphones à l'intérieur de la pièce. J'ai compris en écoutant que je réussissais à avoir une intimité énorme. Quelque chose de tellement intime que quelqu'un oublie le point de vue qu'il a. C'est devenu un jeu, qui est un jeu entre le point de vue qui est le point de vue de la fiction, du cinéma, et quelque chose de tellement fort, de tellement vrai, que ça fonctionnait très très bien, cette chose. Cet angle presque cinématographique, presque plastique, avec ce petit immeuble qui n'avait plus aucun rapport avec l'extérieur, sinon avec les sons. Et puis j'ai commencé à construire de la même manière toutes les autres histoires, en essayant à chaque fois d'avoir un angle qui soit pratiquement le même à chaque fois. Et puis après j'ai beaucoup travaillé, beaucoup en post-production, avec de façon à ce que dans cette fenêtre il y ait plein de passages de vie.
Jean-François Rosy, vous dites dans son entretien que filmer pour vous c'est douloureux. De quelle nature est cette douleur ?
Et... Au
moment où je...
Au
milieu d'un rapport qui est très intime, arriver avec la caméra, ça brise tout ce qu'il y a eu avant. Ça veut dire qu'il faut reconstruire quelque chose d'autre, de ma part et de la part de la personne qui est face à moi. C'est le moment où la confiance réciproque qui s'est créée pour arriver de la part du personnage à me donner un fragment de sa vie, et pour moi, qu'est-ce que je vais faire de cette vie avec l'histoire que j'ai en tête? C'est une sorte de moment où les comptes doivent être rendus. Il y a une superposition meraviglieuse, qui n'est pas une question d'abuser des gens. C'est pas simplement de se servir d'eux. Je peux raconter la vérité du personnage. C'est un moment très délicat que j'essaie de renvoyer à l'infini. Je pense que le film le plus beau, c'est celui qui ne filme jamais. La caméra voudrait aller partout, trouver l'angle parfait, trouver l'histoire sans la falsifier, sans briser la vérité du personnage est très difficile. Parce qu'il suffit que la caméra soit trop basse, ou un peu à côté, et tout est détruit.
Menoferine ?
Oui, Paul-André, je pensais à Roissy, hein, enfin au terminal 1 et au nombre de fois où ce terminal a été filmé par le cinéma français. Est-ce qu'il y a des scènes en particulier, vous, qui vous ont marqué ou des moments où vous vous êtes dit que la façon dont votre bâtiment était filmé vous semblait intéressante ?
J'ai toujours pensé que c'était un objet fait. C'est fait pour le mouvement et c'est fait dans le mouvement, si bien que ça a une grande parenté avec le cinéma. Il est difficile de faire de bonnes photos à Roissy, hein, et en revanche, il est beaucoup plus facile, à mon avis, de faire des films. Parce qu'il suffit de se mettre en mouvement dans ce bâtiment pour être correct avec ce bâtiment, dans l'esprit de ce bâtiment. Hein. C'est... Vous voyez, c'est un ouvrage dans lequel on n'a pas fait une boîte dans laquelle on agence les choses. On a dessiné des cheminements et on a construit autour des cheminements. Et donc les cinéastes qui suivent ce cheminement, ou qui au contraire le contredisent d'ailleurs, qu'importe, mais qui s'installent dans le mouvement, ce qui est souvent leur métier principal, eh bien ils rendent bien compte de ce bâtiment. Alors que les photographes statiques, ils ont plus de mal.
Gianfranco Rosi, en 2010, vous avez signé votre troisième film qui s'appelait El Sicario. C'était le portrait d'un membre de cartel mexicain qui confesse à la caméra ses exactions et les tortures qu'il a infligées. Votre position était compliquée en tant que réalisateur. Le film a d'ailleurs été critiqué aussi pour son ambiguïté morale. Qu'est-ce que cette expérience radicale a pu changer de la manière dont vous abordez aujourd'hui les personnages ?
C'était mon troisième
film après Velocilevel, Botman et Velocilevel. C'est un film, un instant movie. C'est un film que j'ai tourné en deux jours, avec un budget très très bas, presque inexistant. C'est un film tourné dans une pièce, avec un tueur à gages qui écrit tout le temps et qui nous confesse son histoire, son passé.
Io mi sono innamorato della storia del racconto di Charles Bowden quando lessi questo racconto.
Ce film est basé sur un reportage d'un des plus grands auteurs américains, Charles Bowden. Et une fois où je suis rentré en contact avec le tueur à gages, j'avais mille idées pour comment on pouvait tourner ce film. Puis après l'avoir rencontré, il m'a obligé à rester uniquement dans une pièce qui était la chambre de torture. Je l'ai attendu pendant 3 ou 4 jours avant qu'il entre. Et un matin, aux 6 heures du matin, il se présente et il dit on tourne. À ce moment-là, tout ce que j'avais en tête s'est écroulé. J'avais peu de minutes pour comprendre comment le filmer. Je l'ai mis sur la tête un voile parce qu'il ne voulait pas être reconnu. Je lui ai donné un cahier, je lui ai donné un stylo. J'avais déjà changé tout ce qui pouvait être reconnaissable dans la pièce pour en faire une sorte de théâtre, comme un lieu de mise en scène, et je ne savais pas du tout où mettre la caméra. J'étais du côté opposé et j'ai regardé tout en fait renversé. Et lui a commencé à écrire et ne s'est jamais arrêté. Et de 3-4 heures de suite comme ça, où je n'ai pas changé d'angle. Et évidemment, à chaque instant, je voulais changer d'angle, mais je me disais, je me trompais, mais je n'arrivais pas. Je me suis dit que je suis en train de tout jouer dans ce moment parce que j'aurais pas de deuxième possibilité. Plus le temps passait, plus paradoxalement, je me suis rendu compte que c'était la seule manière de filmer. Tout était renversé, la vérité. Et puis le lendemain, je filmais de l'autre côté où lui feuilletait, racontait ce qu'il avait fait. Donc il y a eu deux cadrages. Après quelques mois, après avoir fait le premier montage, j'ai réussi à le rencontrer de nouveau. Et là, magiquement, il a interprété quelques moments essentiels de ce qui se passait dans cette pièce. Il y a eu vraiment trois moments. Dans le montage,
À la fin,
c'est le film le plus cinématographique dans l'absolu, parce que c'est dans l'absence d'images, de séquences cinématographiques, et c'est le spectateur qui crée ses propres sensations. Je crois que ce film, dans l'absence de cinéma, est la pureté totale du cinéma. Je crois que celui qui a la possibilité de voir le film sur le grand écran a vécu une expérience très forte du point de vue cinématographique. Le film a eu beaucoup de succès, il a tourné partout dans le monde. Et j'ai entendu peu de critiques en disant que le film est immoral. J'étais même assez surpris de ça.
Un monument, un bâtiment n'est jamais fini. Il est toujours vivant, même à l'état de ruine, il est vivant. Il a toujours une nouvelle identité qui en appelle à sa mémoire, mais qui la transforme.
Merci à nos invités. Paul Andreux, votre roman Enfin est paru aux éditions Gallimard. Gianfranco Rosi, le film Sacro Gras sortira en salle demain. Ça, c'était pour aujourd'hui, et justement demain. Bien demain, une émission Cinéma Fantastique avec le réalisateur Kiyoshi Kurosawa et le chef opérateur Tom Harari.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission en direct à réécouter en ligne ou à podcaster sur le site de France Culture. Une émission préparée ce soir par Lucille Como, Manu Farine, Mathieu Conquet, Benoît Lagane, Xavier Martinet, Marie Pio et Issa Tundoy, à la traduction Olivier Favier, à la prise de son Ludovic Augier et Élise Leu, réalisation Thomas Beau.
Il est temps de nous quitter, vous écoutez France Culture, mais c'est bien. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec les grandes lectures de France Culture sous un petit format. Et ce soir, Denis Podalydès lit Fuir Pénélope de lui-même. Alors bonne soirée à tous.